Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Cause Commune, disponible en Ile-de-France sur la 93.1 FM et sur le DAB+, et partout ailleurs sur cause-commune.fm. Vous êtes de nouveau avec nous dans la Bad Feminism Fabric, le podcast où on tente de déconstruire nos a priori dans la pop culture. L'émission est présentée par nous, deux meufs, et vous nous retrouverez de manière hebdomadaire tout le long du mois de mars, autour de la journée emblématique qu'est le 8 mars. Même si on continue d'espérer que cette journée n'existe bientôt plus, parce que ça voudra dire qu'on n'a plus besoin de souligner nos luttes et qu'on a enfin obtenu les droits qui nous sont dû d'être traités à l'égal des hommes. On abordera ensemble des éléments clés pour entrevoir avec un nouveau regard l'héritage de la culture populaire et celle d'aujourd'hui. Voilà, et en gros, on va soulever plein de choses en gardant à l'esprit un point de vue inclusif et la notion de genre. Cette musique que vous venez d'entendre passe quand on utilise des termes qui peuvent nécessiter un éclaircissement. Parce que non, on n'est pas tous égaux face aux notions et termes rapportant au genre et au féminisme. Du coup, on s'est dit qu'une petite explication pour qu'on avance toutes et tout ensemble avec les mêmes bases, ce serait cool.
Du coup, tu disais qu'on parlera de différents sujets en gardant en tête inclusivité et genre. Bon, en gros, le genre, on vous le dit, on vous le redit. Et bouchez-vous les oreilles si vous en pouvez plus. C'est les constructions sociales et culturelles qui enferment les individus dans des rôles masculins et féminins. Le sexe est inhérent, alors que le genre d'une personne peut être fluide. Du coup, par exemple, un garçon, biologiquement parlant, n'est pas forcément et n'a pas à être forcément masculin dans son identité, et inversement. Et ça peut évoluer tout au long de la vie.
Allez, on part sur le 4e épisode du BFF Podcast.
Et dans notre 4e épisode du podcast, on va parler à nouveau de Gender Fabric. Et dans cette seconde partie, qui clôt le cycle sur la fabrique du genre, dans les dessins animés, on va s'attaquer aux constructions sociales, sous-jacentes, toujours en se basant sur les créations du plus grand studio d'animation au monde. On va dresser un petit panel de films considérés par l'opinion publique comme des classiques de l'enfance, d'hier et d'aujourd'hui. Et on va y déceler des notions, des messages, pas évidents au premier abord, mais qui ont un impact, et ce, dès l'enfance. Et comme c'est ce qui nous questionne, on va essayer de découvrir ou de redécouvrir et nuancer ensemble l'influence, l'origine et le rôle des relations entre héros et héroïnes, ainsi que leurs relations avec eux-mêmes.
Alors on part sur la même recette, dessin animé Disney, oui encore, sans animaux, héros et héroïnes, vos références et celles des plus jeunes. Et maintenant qu'on a abordé ensemble l'aspect physique et genré de nos personnages préférés, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin. Même si les studios prennent doucement conscience du monde qui les entoure et distillent des corps et des messages plus inclusifs et préviennent des productions passées problématiques avec des trigger warnings, on est loin, ne serait-ce que pour l'esthétique, d'une body positive. Le body positive, c'est un mouvement social qui prône l'acceptation de tous les types de corps humains. Ça encourage la diversité et du coup l'estime de soi. Parce que comme on le sait, la beauté c'est une construction sociale. Oui, comme le genre. Dont les stéréotypes changent selon les médias, la période et l'endroit. Mais en plus, l'accent qui est mis sur le racisme et le sexisme notamment, bien que primordiaux, hein, il cache des problématiques insidieuses auxquelles il faut aussi s'intéresser. Ce serait trop simple que ça s'arrête là. Ici, on va parler des relations qu'entretiennent nos héros et héroïnes, et aussi à ce que véhiculent leurs épopées, leurs objectifs. Bref, leur vie au-delà de leur rôle et de leur physique. Parce qu'il y a ce à quoi on croit qu'il faut ressembler, mais aussi comment se construire en tant qu'être social avec le sexe, genre opposé, sa famille, ses amis, ses ennemis. Et en tant qu'individu avec son passé et surtout son avenir, ses rêves et ses peurs. C'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui.
Comme on l'a abordé dans la première partie de l'épisode sur la fabrique du genre, les princes et princesses sont des personnages centraux. Mais la trame de l'histoire prend le pas sur leur personnalité. Qui, on peut le dire maintenant, ne sont pas vraiment développés. Si les princesses subissent les événements et les décisions des autres, les princes, eux, prennent les choses en main, mais en silence. Heureusement, les années 90 viennent marquer un renouveau dans le studio. Effectivement, Disney, qui concentre à lui seul un bon nombre de stéréotypes, prend une trajectoire différente et se détache sensiblement de l'apparence de ses personnages. Les héroïnes ne sont plus seulement passives et occidentales, à attendre le prince charmant en chantonnant lorsqu'elles passent le balai, à l'instar de Blanche-Neige ou Aurore dans La Belle au bois dormant. Elles ont désormais du caractère, bousculent l'ordre établi et s'affirment comme Mulan, Pocahontas, Esmeralda dans Le Bossu de Notre-Dame, Jasmine dans Aladdin, Réponse, Rebelle ou Elsa dans La Reine des Neiges. Elles commencent doucement à se libérer des dictats de la société. Aucune d'entre elles n'est attirée par le mariage et certainement pas avec un homme qu'elles n'ont pas choisi. Qu'il s'agisse de Pocahontas, Mulan, Belle ou Jasmine, on peut dire que ce sont elles-mêmes qui leur portent secours. Mulan sauvera son père et l'empereur, Jasmine, Aladdin, Pocahontas, John Smith. Au-delà des apparences physiques, leur activité, leur caractère et leur intérêt se diversifient entre force de caractère, empathie et curiosité intellectuelle. Dans La Belle et la Bête, la Belle est une fille cultivée qui ne prend même pas la peine de s'intéresser aux avances du bel Apollon Gaston.
Un jour, disais-je, où tes rêves vont prendre corps.
Je me demande ce que tu peux savoir de mes rêves, Gaston.
Tout ! Tiens, imagine une seconde. Un chalet niché dans les arbres, un quartier de sangliers grillant sur le feu. Ma petite femme qui me masse gentiment les pieds pendant que nos enfants gambadent avec les chiens. 6 ou 7, ce serait parfait.
Chien ?
Non, Belle, 7 superbes gaillards comme leur père.
Je vois ça d'ici.
Et sais-tu à quelle femme j'ai pensé ?
Laisse-moi deviner.
À toi, Belle.
Gaston, je suis abasourdi, sans voix. Je ne sais pas quoi dire.
Dis que tu rêves de m'épouser.
Je suis vraiment désolée, Gaston, mais...
Belle aime lire. Elle n'a pas besoin d'un homme pour s'épanouir, ce qui l'éloigne de la norme. Elle est d'ailleurs jugée pour cela. Mais malgré son souhait d'indépendance et de liberté, elle finira par tomber amoureuse de la bête qui l'a retenue prisonnière. Coucou le syndrome de Stockholm.
Tiens, en parlant de syndrome, on va s'attaquer au syndrome du sauveur blanc. Là, à travers la figure de Pocahontas qui apparaît dans l'autobiographie de John Smith. C'est une figure indigène importante aujourd'hui pour les natifs américains. Elle a vraiment existé. Déjà, son vrai nom c'était Matokoa, mais Disney a gardé le surnom qui veut dire espiègle. Ironie mal placée pour une femme au destin si tragique. Dans la véritable histoire, Matokoa avait 12 ans et John Smith 27. Au moment de leur rencontre, aucune relation amoureuse ne s'est déclarée d'ailleurs. Elle l'aurait possiblement aidé alors qu'il était capturé par sa tribu et elle a épousé Kokoum, dont vous vous souvenez je pense. Elle a eu un enfant avec lui après. Elle fut ensuite enlevée par les colons anglais. Elle est assimilée, violée puis mariée de force à un autre homme. Baptisée catholique, on la renomme Rebecca. Leur union a servi à promouvoir la colonisation et elle meurt à 22 ans. On comprend bien ici que Disney a complètement romancé la vie de l'indigène, l'a même transformée à l'avantage de l'Occident, et l'a sexualisée par la même occasion, comme les autres princesses issues de contes d'ailleurs. En continuité de cette idée, en 98, on a aussi Mulan. Ici, le studio prend un parti pris audacieux en présentant un personnage qui ne cherche pas le prince charmant. Inspiré d'une légende chinoise, Mulan est une jeune fille qui ne trouve pas sa place dans les conventions accolées aux femmes. Ne pouvant honorer ce qu'on attend d'elle, à l'annonce de l'invasion des Huns dans son pays, elle décide de s'engager à la place de son père dans le but de lui sauver la vie. Et ce qui devait s'arrêter à compter l'ascension de cette grande guerrière se poursuit sans surprise aussi en une histoire d'amour avec le capitaine. Bon après, Mulan reste un personnage badass, quoi qu'il arrive. Mais c'est quand même dommage de systématiquement y ajouter une morale qui replace les femmes dans les traditions bien attendues de l'amour et du mariage. Bon après, pour l'anecdote, Mulan n'était pas chinoise, elle était barbare, mais bref. C'est comme si elles n'avaient pas le droit de sortir totalement du lot et que Disney, rattrapé par ses vieux démons, les enfermait. Ça reste le seul dessin animé à aborder le travestissement de manière plutôt positive, et ça c'est cool. Sans compter que Mulan entre quand même dans un milieu d'hommes, et ça Disney ne manque pas de nous le rappeler. Que se battre c'est pour les hommes, que pour être fort il faut être comme un homme.
Attaquons l'exercice pour défaire les uns. M'ont-ils donné leur fils ? Je n'en vois pas un. Vous êtes plus fragile que des fillettes, mais jusqu'au bout, et coup par coup, je saurai faire de vrais hommes de vous.
réponse, en 2010, marque également un tournant. Elle n'est pas passive face au prince charmant et montre aussi que, oui, un personnage principal, féminin, peut être drôle. Mais comme pour Mulan, dès qu'un homme fait son entrée, on sait déjà quelle en est la finalité. Elle perd sa domination physique à la fin de l'histoire, ses cheveux perdent leur fonction de combat, symbole de son émancipation et de sa puissance tout au long du récit. Elle a très peu conscience de son pouvoir et finalement l'abandonne pour un homme et pour être libre. Elle ne peut donc pas conjuguer pouvoir et liberté. C'est dommage, non ? Une qui casse bien tous ses codes, par contre, c'est Mérida dans Rebelle, qui préfère largement chevaucher en forêt et faire du tir à l'arc que de répondre à ses devoirs de princesse. Discipline, exemplarité et maintien des traditions. Envieuse de sa liberté, Mérida souhaite changer son destin qui la prépare au mariage. Et pour ne pas se plier aux exigences des traditions, Rebelle est prête à tout. En jouant de persévérance et de diplomatie, elle prétend à sa propre main lors d'un tournoi de tir à l'arc et le remporte. Mais elle se heurte évidemment au conflit avec sa mère. Et en plus de tout ça, son physique tranche avec les habitudes du studio. C'est la seule qui garde ses cheveux au naturel, la seule aussi qui ne porte pas de maquillage. Son visage est d'ailleurs plus rond et enfantin que celui des princesses, sans que jamais les âges n'en soient mentionnés. Pour l'anecdote, Rebelle et la Reine des Neiges ont été co-réalisés par des femmes. Coïncidence ? On ne pense pas. C'est du female gaze, on en parlera peut-être ensemble plus tard. En continuité, on a La Reine des Neiges, sortie en 2013, qui est carrément une ode à la sororité et plus du tout à l'amour habituellement souligné dans les histoires de princesses. L'histoire se résume entre rabibochage de sœurs, contrôle de pouvoir magique et le règne de l'une d'entre elles. De nombreux stéréotypes sont dégagés. Le coup de foudre, le prince charmant, tout ça quoi. Elsa s'oppose même au mariage de sa sœur et d'un prince rencontré quelques instants plus tôt.
Bon après, faut pas déconner non plus. Anna, l'une des sœurs, finit quand même par tomber amoureuse d'un autre garçon. Gentil, simple et musclé. Le nouveau prince parfait, quoi. Elsa, malgré ses pouvoirs, doute de ses capacités à les maîtriser. Du coup, elle reste très vigilante. On peut se demander si le personnage d'Elsa avait été un garçon, aurait-il été si prudent ? Ou est-ce qu'il se serait directement entraîné pour maîtriser ses pouvoirs ? Bon, visiblement, on n'en a donc toujours pas terminé avec les stéréotypes genrés. On peut quand même souligner qu'Elsa est la première femme que l'on voit régner chez Disney. C'est un progrès. Et si on va plus loin, on genre jusqu'aux objets. Et on peut se demander pourquoi une armoire n'est pas une femme dans La Belle et la Bête, pourquoi un nom féminin ne garde pas son genre. Mais aussi, on pourrait simplement considérer que comme c'est un objet, le genre est neutre. C'est quand même bizarre d'en arriver au point de genrer théière, tasse, petit compagnon animalier, voire créature imaginaire comme Stitch. Ce besoin incessant de rapporter chaque élément à un genre est symptomatique d'une obsession pour cette notion normalisante.
D'ailleurs, bien au-delà du domaine cinématographique, on genre les produits dérivés Disney. Pour les filles, on verra poupées, services à thé, boîte à musique, et pour les garçons, figurines, caisses à outils, épées, etc. Ils répètent des systèmes commerciaux déjà existants et perpétuent les stéréotypes de genre. Même les objets, qui sont censés être les plus neutres, comme les trottinettes, consoles vidéo ou cahiers de coloriage, sont hyper genrés. On a compris que chacun et chacune doit être soit dans son rôle, soit dans sa case. Bon, on passe aux garçons. Comme les personnages féminins, la représentation des hommes évolue. À commencer par le fait qu'ils ne sont plus forcément princes d'ailleurs. Il y a bien Aladdin, qui n'est pas prince, mais bon, c'est un dessin animé assez raciste et plein de préjugés. Je pense qu'on n'a pas besoin de vous expliquer les répercussions négatives que ça continue de pérenniser dans l'imaginaire collectif, qui s'appelle l'exotisation. L'exotisation, c'est le fait de projeter des fantasmes, souvent qui ne leur ressemblent pas sur des communautés et des ethnies. C'est des stéréotypes de l'imagerie collective occidentale qui mettent en scène l'autre avec un grand A et qui renforcent des clichés, qu'ils soient péjoratifs ou non. L'exotisation va de pair avec l'appropriation culturelle et avec l'érotisation. C'est en gros ce qui est beau, mais pas blanc. C'est une fascination condescendante. En gros, en représentant Jasmine en danseuse orientale ou Aladdin en voleur, Disney offre une représentation collective de ce à quoi est supposé ressembler une femme ou un homme qui vient des pays du Maghreb.
Ben oui, en fait, ce genre de représentation, ça perpétue aussi le racisme. Pour rappel, le racisme, c'est une idéologie qui considère qu'il y a des races dont certaines seraient naturellement supérieures à d'autres dans l'espèce humaine. La xénophobie, c'est les comportements hostiles et discriminants envers ce qui est étranger. Ici, envers une ethnie, voire une couleur de peau, différente de la sienne. Mais bon, on vous rassure, la figure du voleur revient bien des années plus tard dans Réponse, et est cette fois-ci jouée par un occidental, comme quoi tout est possible. D'ailleurs, on peut remarquer que certains méchants, à la peau non blanche, sont les seuls qui pratiquent une magie noire. Évidemment. Et à avoir un physique mince, efféminé et à se maquiller, comme Jafar ou le maître des ombres. Ce sont donc les minorités, femmes, noires et hommes avec des attributs féminins qui usent à mauvais escient de leur pouvoir. Intéressant, non ? Les hommes blancs, même méchants, ne sont jamais associés à des sorcières. Bref, pour revenir au prince, sa figure s'efface de plus en plus et laisse place à des personnages masculins issus de la classe populaire. On sort complètement de l'image parfaite du prince qui parlait à peine. Il devient presque aussi important que la princesse. C'est un personnage central.
D'autres rôles secondaires évoluent jusqu'au milieu des années 80. Les parents restent plutôt absents dans les productions Disney. Soit parce qu'ils tenaient un rôle périphérique dans l'histoire, soit parce qu'ils étaient morts ou avaient abandonné leurs enfants. De la fin des années 80 aux années 90, se succèdent donc des figures de pères bienveillants, les mères étant quasiment absentes. On l'a vu précédemment, les princesses, et en général les femmes, sont l'objet d'une oppression de la part des hommes, et elles aspirent à se libérer de leur chaîne. Mais pour se dédouaner de toute oppression patriarcale, autrement dit se dédouaner du système organisé pour que le pouvoir soit détenu par les hommes et opprimer les femmes, les studios dépeignent des pères qui sont extrêmement soucieux pour leurs filles. La figure du père n'est pas posée comme celui à qui profite la domination qu'il exerce sur sa fille. Non, c'est seulement pour son bien qu'il fait ça. Puis d'ailleurs, il finit toujours par lui donner sa bénédiction.
Ouais, et lorsque les mères seraient apparues, c'était timide, comme Hera dans Hercule, qui n'a des interventions que très ponctuelles dans le film. La figure de Zeus prend le dessus. Ou encore avec la mère de Jim Hawking, dans La planète au trésor, qui tente vite fait de dissuader son fils de partir à l'aventure. Dans le même esprit, la mère de Tiana, dans La princesse et la grenouille, émet des réserves quand sa fille lui parle de son rêve, monte à un resto pour marcher sur les traces de son père. Sa mère ne manque pas de lui rappeler que le plus important, c'est qu'elle rencontre l'amour.
Et je te souhaite la même chose, ma chérie. Rencontrer ton prince charmant et danser toute ta vie comme dans les contes de fées.
Oh, maman, je n'ai pas le temps de danser. J'ai encore tellement de choses à faire.
Et ça va te prendre longtemps.
Je n'ai pas le temps de perdre mon temps. Il y a plus urgent sur terre.
Je veux des petits-enfants, moi.
Cette ville est trop tranquille. La vie s'écoule lentement. Je sais où je vais depuis si longtemps. Et j'irai toujours, toujours de l'avant. J'irai au bout du rêve. Au bout du rêve. Si je rencontre des montagnes, je les soulève. Si je tombe, il suffit que je me relève. Alors rien ne pourra m'arrêter. J'irai au bout du rêve.
Face à une fille ambitieuse et inébranlable, la mère se fait le relais de l'idéologie patriarcale et le père est le moteur de son émancipation. Le film place ainsi l'héroïne devant une alternative, soit son rêve professionnel, soit l'amour. Hétérosexuel bien sûr. Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais les schémas amoureux dans les productions Disney restent exclusivement hétéros. Du coup, on peut dire que Disney considère que c'est la norme, comme la société. Hein. C'est ce qu'on appelle l'hétéronormativité. C'est le fait que le couple normal, entre guillemets, le plus représenté, il est hétéro. Du coup, ça induit des discriminations envers les autres orientations sexuelles et des inégalités, parce qu'ils sont en dehors de la norme sociale.
Ouais, donc non seulement les femmes sont des mauvaises mères, mais en plus, elles perpétuent les codes patriarcaux. Ce renversement, plutôt culotté, on peut le dire, se poursuit dans Réponse avec Mère Gothel, qui la séquestre à l'intérieur du foyer. Ici, ce sont les femmes qui enchaînent les femmes. D'ailleurs, vous remarquerez que souvent le compagnon le plus proche de la princesse est souvent un animal, parfois doué de parole. Ce qui rend leur solitude palpable, voire pathétique. Avec l'histoire de Rebelle, les studios Disney poussent cette tendance jusqu'au bout en proposant une mère initialement castratrice. Contrairement à son mari, Fergus, elle s'acharne à faire de sa fille une femme à marier qui respecte les traditions. Belle technique pour innocenter les hommes. On peut dire que lorsqu'un personnage ou une figure de mère est un minimum présent à l'écran, dans un long métrage Disney, il y a de fortes chances pour qu'elle soit au mieux ennuyeuse, au pire carrément sévère. En revanche, s'il arrive parfois à certains pères de s'opposer aux désirs de leurs enfants, leur bienveillance ressort toujours au final comme leur trait le plus déterminant. À l'opposé de leurs homologues féminins, ils valorisent le plus souvent les projets de leurs enfants et leur permettent ainsi de réaliser leurs désirs. En plus de ça, les pères ont la possibilité d'être drôles. Que ce soit volontairement ou involontairement, les mères sont simplement fades. Disney ne nous épargne pas sur la diabolisation des mères et surtout des belles-mères, notamment la reine de Blanche-Neige, la marâtre de Cendrillon. Les portraits positifs de mères ont une portée assez restreinte chez les princesses. Souvent, elles sont même absentes. Cendrillon est d'ailleurs un super exemple. Dès le début de l'histoire, on plonge dans une séquence narrative qui décrit son père comme brave, attentionné, tendre, majestueux. qui pense aux besoins de sa fille, notamment en pensant qu'il est bon pour elle, qu'elle est une figure maternelle dans sa vie. Un père parfait qui disparaît et laisse place à la tyrannique belle-mère froide, cruelle et jalouse du charme de Cendrillon. Le cadre est posé, simple et efficace.
De l'autre côté de l'Occident, la représentation des parents est assez différente. Dans le film Kiki la petite sorcière, ses parents la poussent à être indépendante et travailleuse lorsque la jeune fille se lance dans l'aventure de devenir livreuse. Et dans Pogneux sur la falaise, c'est son père qui, jusqu'à l'intervention décisive de la mère, refuse qu'elle soit libre. Ici, c'est la mère qui incarne l'autorité parentale. La figure du père, qui croit protéger et vouloir le meilleur, se retrouve aussi dans les contes de la princesse Kaguya, toujours des studios Ghibli. La jeune fille dépérit au fil du temps en s'éloignant de sa vie simple pour une vie de femme de la haute société, étriquée dans un rôle imposé par son père qui la rend malheureuse et où son seul souhait est d'éviter le mariage. On vous passe une comptine issue du film où la princesse et d'autres enfants chantent qui, au-delà de l'aspect folklorique, laisse présager l'avenir funeste de la femme qu'elle est poussée à devenir.
Herbe, fleurs, que vienne le printemps, l'été, l'automne avant l'hiver. Que vienne le printemps, l'été, l'automne avant l'hiver. Oiseaux, insectes et bêtes
sauvages.
Feuillage, herbe, fleurs. Que vienne le printemps, l'été, l'automne avant l'hiver.
Tu connais cette chanson et tu sais la chanter?
Oui, je connais.
L'été, l'automne avant l'hiver. Tourne sans fin, moulin à eau, tourne de
passer lointain. Reviens et donne-moi mon pauvre cœur perdu. Reviens et donne-moi mon pauvre cœur perdu. Oiseaux, insectes et bêtes sauvages. Feuillages, herbes, fleurs. Nourrissent la clémence des hommes et leur courage. Si j'apprends que tu m'attends, je reviendrai sur le champ.
Vous avez entendu ? Le chant était interprété uniquement par des enfants. Ce qui paraît anodin, mais finalement, quand on y pense, c'est rarement le cas dans les Disney. Cela tient au fait que dans les films d'animation, Miyazaki s'attache à représenter chaque tranche d'âge. Une enfant de 5 ans n'est pas une enfant de 8 ans ou une jeune fille de 17 ans, alors que chez Disney, les petites filles passent du statut d'enfant à femme directement. La représentation est biaisée dans les Disney. Les jeunes enfants s'identifient à des adolescents de 17 ans ou de 20 ans, ce qui crée des visions dysmorphiques. Chez Disney, on voit une femme en devenir. Chez Miyazaki, on propose juste une identification. Miyazaki donne vie dans ses dessins animés à une série de personnages féminins qui n'ont aucun équivalent dans l'univers Disney. Ou plus exactement, qui ne pourraient y exister qu'en y endossant plutôt des rôles de méchantes. Les filles, dans les films des studios Ghibli, sont des personnages centraux. Parfois princesses, guerrières, magiques, ordinaires, vieilles, jeunes, porte-parole d'un autre monde, mères dominantes ou filles indépendantes. Voilà une représentation de femmes libres et plurielles. Bien souvent embarquées dans d'étranges aventures, les jeunes filles se retrouvent face à leur destin, ni sexualisées, au point que même quand elles sont en train de voler en robe, on n'aperçoit pas leurs sous-vêtements. Elles ne sont pas dans les canons de beauté, puisque oui, ces filles sont bel et bien des enfants, qui ont un physique et un comportement qui correspond véritablement à leur âge.
Ce qui est surprenant, chez Miyazaki, c'est que les histoires d'amour sont très rarement présentes. Même si on y sent un attachement entre les personnages dans certains films, jamais ces personnages ne finissent par se marier. Et d'ailleurs, ils s'embrassent à peine. Le studio Ghibli met avant tout l'accent sur l'aventure et l'émancipation que ces jeunes filles gagnent au fil du récit. Et Miyazaki va reproduire cette inversion du rapport de domination, fortement présent dans la société japonaise, à presque chacun des animés suivants. Que ce soit la princesse Mononoke, Nausicaa, ou des personnages secondaires tels que Dame Eboshi, ou la princesse Kushana, elles sont toutes des femmes indépendantes et fortes, qui sont au contrôle de leur vie, projet ou société. La répartition des rôles chez Miyazaki n'est jamais sexiste. Le sexisme, c'est l'ensemble des préjugés qui sont fondés sur le sexe et le genre d'une personne. C'est considérer qu'ils sont profondément différents et qu'ils ont des rôles et des positions spécifiques dans la société. Le sexisme, ça entretient la croyance qu'il y aurait un sexe supérieur à l'autre. Du coup, ça entraîne des distinctions qui sont injustifiées entre les hommes et les femmes. Et qui ont des conséquences d'abord sur les femmes, mais aussi sur les hommes.
<t'en>
Dans le thème de Princesse Mononoké qu'on vient d'entendre, on parle de la beauté de celle-ci, mais en disant « Ton beau visage qui se profile dans la lumière, aussi impitoyable que le fil de l'épée ». On est dans des références à la force et au combat, grosse nuance avec les notions de beauté habituelles. Elle n'est pas réduite cette fois. D'ailleurs, on peut remarquer que le dessin animé ne tombe pas dans le cliché de la sauvage représentée dénudée, peu civilisée, comme Tarzan par exemple. Pas de place à la sexualisation, toujours pas. Souvent, ces aventures dépeignent les dérives du monde autour des thèmes de l'écologie et la violence liés à la guerre ou encore l'avancée technologique, des sujets extrêmement sérieux, bien loin des contes de Disney. La place des hommes est secondaire ou souvent tournée en dérision dans ces films d'animation. Quand ils jouent un personnage important, ils restent relégués à un rôle de soutien, une aide, une épaule, mais ne sont jamais des sauveurs. Pour autant, les personnages féminins ne méprisent pas les hommes. La leçon est précisément qu'il n'est pas nécessaire de séparer ces attributs, que l'humain peut être à la fois fort et bienveillant. On réalise toute la fracture qui existe entre un Disney et un Ghibli sur ces questions. D'ailleurs, celui-ci répond presque sans faute au test Bechdel, contrairement à son comparse.
Le test de Bechdel a été théorisé en 1985 par l'auteur de bande dessinée américaine Alison Bechdel. C'est un outil qui sert à mesurer la place des femmes dans les œuvres et du coup à dénoncer les inégalités de genre. On vous en parle parce qu'il est hyper simple à utiliser. Pour passer le test, un dessin animé, disons ici, doit remplir trois critères. Est-ce que vous pouvez identifier deux femmes par leur prénom et pas par leur fonction ou leur genre ? Sachant qu'être la mère ou la femme d'eux, ça marche pas. Est-ce que ces deux femmes parlent ensemble et d'autres choses que de personnages masculins ? Vous pouvez le faire à l'inverse pour vous rendre compte de la surreprésentation masculine dans les créations en général. Après, le test n'est pas infaillible, bien sûr. Un film peut proposer une héroïne féminine et badass, mais elle n'interagit pas avec des femmes, par exemple. Mais ça reste un indicateur intéressant à appliquer de manière systématique quand on regarde un truc. Quand on sait que beaucoup de studios se cantonnent à une héroïne sexy ayant la vingtaine, le studio Ghibli met en scène autant d'enfants que de personnes âgées. Chaque personne composant la société peut y trouver sa place. Les personnages sont donc plus réalistes et possèdent une réelle quête spirituelle mise en valeur. Finalement, est-ce que ce serait pas ce qui manque chez les géants de l'animation ? Peu à peu, notamment grâce à l'émancipation des femmes dans la société, le regard des années 80-90 change vis-à-vis du rôle des femmes. En conséquence, les femmes des films Disney voient leur activité et leur comportement se diversifier. Ces dernières apparaissent plus curieuses et actives. En allant à l'opposé des stéréotypes, les personnages féminins comme Belle, Mulan ou encore Elsa ne sont plus réduites à des activités ménagères, à leur beauté physique, leurs craintes et leurs dépendances. Mulan, Pocahontas sont des combattantes engagées, toutes défiant les différences ethniques et ou leur genre qui sont rejetées par la société. Reflet de l'évolution de la société moderne et contemporaine, on constate que l'image de la femme évolue encore et on voit émerger un modèle de femme plus affirmé vers 2010. Contrairement aux princesses traditionnelles plus anciennes, celles-ci ne sont plus sous l'autorité de quiconque. La désobéissance semble primordiale pour trouver sa liberté. Évidemment, on vous a donné un petit panel d'exemples, mais ils sont non exhaustifs. Si on avait pu traiter un à un chaque sujet, vous vous en doutez bien, on l'aurait fait. En plus, l'évolution du genre dans les Disney est critiquable. Le genre n'est pas fluide. Il n'y a pas de place pour la neutralité. Alors, à quand la représentation de la non-binarité ? À quand la représentation de l'homosexualité ? À quand la représentation de la transsexualité ? Tout simplement, à quand une représentation plus ouverte ?
Eh bien, notre quatrième et dernier épisode de la saga Gender Fabric est fini. Encore merci à Cause Commune de nous avoir diffusé pour ces quelques podcasts de la Bad Feminist Fabric. On est toujours heureuse de partager ces moments avec vous et on revient peut-être bientôt sur la radio Cause Commune 93.1 FM pour d'autres tribulations. En attendant, si vous y tenez, vous pouvez nous réécouter sur internet sur le site cause-commune.fm. Et surtout, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, on vous a encore mis sur la page du podcast des références qui feront écho à l'émission et iront plus loin. Il y a des bouquins pour adultes, pour enfants, et il y a aussi des liens de conférences et de podcasts. Sur ce, apprenez à kiffer les méchants des dessins animés de votre enfance et à supporter les chansons de la Reine des Neiges. Maintenant qu'on sait que c'est pas si mauvais, on vous souhaite une belle journée et à bientôt.
Qui crois-tu donc tromper ?